Bon matin, Nouvelle-Ville-la-Prairie, est-ce que vous allez bien?
Oui.
Content de vous voir en grand nombre. Et alors qu'on va commencer le message, les préposés vont distribuer les éléments pour prendre la communion à la fin du message. Alors, on va les distribuer pendant les quelques premiers instants, vous pouvez les prendre. Si vous êtes là avec nous pour la première fois, si vous êtes chrétien de nouveau, on est heureux de prendre avec vous la communion. C'est la communion et le repas du Seigneur que tous les croyants de nouveau prennent ensemble. Si vous êtes là avec nous, vous nous visitez de l'extérieur, prenez-la avec nous. Si jamais, merci, vous êtes là invité par quelqu'un et vous êtes curieux aujourd'hui, ce matin, vous pouvez vous abstenir de la prendre, il n'y a aucun problème. On le prendra la communion à la fin de la célébration, à la fin de la réunion. Et si c'est la première fois que vous la prenez avec nous, c'est une cup avec tout le pain et le jus en dedans. Donc si vous avez juste à enlever la première pellicule plastique pour prendre le pain et en dessous, il y a la coupe avec le jus que vous pourrez prendre ensemble. Et je le donne à la blague toujours, mais n'appuyez pas en même temps d'enlever la coupe pour le jus, parce que les gens autour de vous pourraient être éclaboussés, et puis on veut essayer de limiter les dégâts. Donc, tout est stérilisé, vous pouvez la mettre juste à côté ou peut-être en dessous de la chaise, on la prendra à la fin de la réunion. Mais on est content de la prendre ensemble, parce que la communion, c'est le repas du Seigneur, ensemble, son Église, où on commémore le sacrifice de Jésus, sa mort à la croix, où il a donné son corps et son sang, mais où il nous a donné une famille spirituelle. Amen. Combien sont reconnaissants pour l'Église qui est une famille spirituelle? Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui a pourvu pour nous? Alors, si vous n'avez pas reçu la coupe, juste levez la main et puis on viendra vous la porter. Je suis heureux de vous apporter le message aujourd'hui et de continuer la série « Mieux vivre » où on découvre ensemble les secrets du livre des Proverbes. Et ça fait quelques semaines qu'on a commencé cette série, mais le livre des Proverbes, c'est incroyable. Il a été écrit il y a des millénaires, mais il est toujours aussi pratique et efficace pour nous, pour dans notre vie. C'est là où le livre des Proverbes, c'est incroyable parce qu'il nous montre comment Dieu est investi et impliqué dans chaque aspect de nos vies. Dieu n'est pas comme les dieux de la mythologie, un peu perdus dans les nuages, en regardant en rien l'humanité, sauf pour la juger avec des éclairs. Non, ça c'est pas notre Dieu. Le Dieu de l'Évangile, le Dieu de la parole de Dieu, est un Dieu qui est investi, qui prend soin de sa création. Dieu a créé l'humanité pour être en relation avec elle. Le péché a tout changé, c'est-à-dire que le péché a comme séparé l'humanité de son Créateur. Mais Dieu, comme un bon père, a toujours voulu être en relation avec sa création. Ce qui fait que depuis des millénaires, il envoie des hommes, des familles, des peuples pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime et qu'il veut être réconcilié avec l'humanité. Jusqu'à envoyer son Fils pour être celui qui allait complètement unir le trait d'union entre l'humanité et le Créateur. Nous ne sommes plus vus par nos péchés, nous sommes vus au travers du sacrifice de Jésus. Et lui a pris sur son corps, à la croix, il a pris sur lui nos péchés pour que nous puissions être vus par Dieu comme saints au travers du sacrifice de Jésus. C'est pour ça que Dieu n'est pas un Dieu lointain, Dieu est très proche de nous. Il est bien plus proche qu'on ne le pense, qu'on ne veut le croire, ou peut-être qu'en ce moment tu te poses une question, est-ce que Dieu m'entend, est-ce que Dieu est là? Dieu est là. Et si tu as besoin d'un signe en ce moment pour savoir est-ce que Dieu t'entend, je suis le signe que Dieu te dit, Dieu t'entend. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est proche de nous et qui prend soin de nous? C'est rassurant de savoir que Dieu prend soin de nous, nous protège et nous répare quand il y a quelque chose qui est brisé dans notre vie. Le livre des Proverbes est tellement pratique qu'il parle de plein de sujets que nous pouvons mettre en pratique chaque jour. Donc, que ce soit sur nos finances, sur la gestion de notre générosité, dans notre vie familiale, dans notre paresse, comme on l'a vu il y a quelques semaines. Il y a comme un livre qui est une sagesse incroyable qui vient de Dieu et qui est véritable pour nous aujourd'hui. Il a été écrit il y a des millénaires, mais il est toujours efficace pour nous aujourd'hui. Et alors que je lisais le livre des Proverbes, il y a un thème qui est arrivé à mes yeux et que je me suis dit, ça serait vraiment intéressant qu'on en parle. On n'en parle pas tant à l'Église, mais je pense que le livre des Proverbes, dans cette série, nous permet d'étudier des thèmes qu'on ne verrait pas forcément à l'année. Et le thème aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'amitié. Il y a toujours un mixed feeling entre le côté « Ah ouais, c'est cool l'amitié, bon, c'est de base », mais en même temps, on se dit « C'est de base, mais en même temps, c'est là où des fois, on est le plus blessé dans l'amitié. » Et ne dites pas « Amen, je vois vos cœurs en arrière. » Au plus on est proche de quelqu'un, au plus on vit des moments incroyablement bons et aussi parfois des souffrances qui font mal. Et au plus on est proche de quelqu'un, au plus ça fait mal, les blessures, n'est-ce pas? Et je pense que Dieu veut guérir. À la première réunion, il y a eu des dizaines de personnes qui sont venues parler en disant « Dieu m'a parlé, Dieu m'a défié à me réconcilier. » Je crois réellement qu'on puisse ouvrir nos cœurs aujourd'hui en disant « Seigneur, quelle est la parole que tu veux pour moi ?» Parce que si Dieu est là, Dieu veut que vous alliez mieux. Et on prêche réellement un Dieu qui est là et qui parfois confronte, et des fois ça fait mal, mais toujours pour notre bien. Il confronte avec amour, avec douceur, avec gentillesse, mais toujours la vérité. Il est 100% grâce et 100% vérité. Amen. Alors, le thème de l'amitié aujourd'hui, on va voir l'importance d'avoir des bons amis, comment les choisir, et afin de les protéger aussi. Et il faut qu'on protège nos amitiés parce que c'est tellement important. Et dans une société où on sort d'une pandémie, où on a été confiné, isolé, où on n'avait pas le droit de se réunir, il y avait plein de restrictions au niveau social, on sort de là. Et on peut dire qu'on ne sait plus forcément comment communiquer, comment aller vers des gens qu'on ne connaît pas pour la première fois et puis se présenter. Des fois, c'est un petit peu difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais plus on vieillit, plus c'est difficile de se faire de nouveaux amis. Mm-hmm, ça touche une corde sensible. C'est que quand on est jeune, on est naïf, on voit tout le monde comme nos amis, même ceux qu'il ne faudrait pas qu'on soit des amis. Et c'est facile de jouer avec tout le monde. T'sais, dans la même journée, tu peux être le meilleur ami de quelqu'un, le pire ami de l'autre, et puis le lendemain, on revient comme s'il n'y avait rien qui s'est passé. Et plus on vieillit, plus c'est difficile d'avoir des amitiés solides ou même de commencer de nouvelles amitiés. Pourtant, c'est paradoxal parce que au plus on vieillit, au plus on a besoin des amis solides autour de nous. Parce que la vie est difficile, mais Dieu est bon. Et Dieu est bon en envoyant des gens autour de nous qui font que nous pouvons marcher dans cette vie en étant assurés de marcher dans la bonne voie. Combien sont reconnaissants pour leurs amis? Amen. Ça prend du temps pour se faire de vieux amis. Alors aujourd'hui, il faut qu'on commence. Si en ce moment tu dis, j'ai réellement besoin d'être bien entouré parce que les gens peut-être autour de moi ne sont pas des gens qui me poussent vers le haut, sont peut-être des gens qui me tirent vers le bas, ou peut-être que tu te dis en ce moment, je suis un peu isolé de tout, c'est normal. Il y a même une statistique que j'ai vue dans Le Devoir, c'est un article de 2018, donc avant la pandémie, mais voici ce que ça disait déjà. La solitude mine la santé psychologique et physique. L'article dit « Le Royaume-Uni vient de créer un ministère consacré à la solitude, une réalité aujourd'hui considérée comme un problème de santé publique aussi criant que le tabagisme ou l'alcoolisme. Gros plan sur ce fléau qui touche aussi le Québec. » La solitude, ce n'est pas juste un effet, non, c'est un problème de santé publique même pour nos gouvernements. Et aujourd'hui, alors que je regardais d'autres statistiques qui disent que, par exemple, vivre dans un environnement pollué peut réduire jusqu'à 5% l'espérance de vie. Avoir des problèmes d'alcool peut le réduire de 30%. Souffrir de solitude abaisse de 45% l'espérance de vie. Ça, ce sont des statistiques qu'on voit, les scientifiques regardent. Il y a comme un côté où nous avons besoin d'être entourés de bonnes personnes. Comme Dieu le dit dans Genèse 1, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dès le premier livre de la Genèse, Dieu était déjà là en disant même, premier, Dieu créa quelque chose. Pourquoi ? Pour être en relation avec sa création. Notre Dieu nous a créés pour que nous soyons bien entourés. Maintenant, il faut qu'on ait la sagesse de Dieu par le livre des Proverbes qu'on va regarder aujourd'hui à comment être un bon ami, comment avoir de bons amis. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Yes. Et je crois que Dieu a pourvu ici dans l'église locale une communauté, une famille spirituelle avec qui on peut grandir, avec qui on peut faire des erreurs et être pardonné, avancer, marcher ensemble dans la même voie pour qu'on puisse, nous et nos familles, grandir sainement dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'église locale est l'endroit où je pense Dieu a donné tout ce que nous avons besoin en relation interpersonnelle. Si tu as besoin des amis, ne cherche pas ailleurs que dans l'église. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir des amis en dehors de l'église. Il faut que nous soyons la lumière du monde. Par contre, il faut que tes amis et confidents, les gens avec qui tu peux avancer, soient dans ce lieu ici, dans la grande famille de l'église avec un grand E. Je ne parle pas juste d'ici, on n'est pas une secte là. Il faut juste qu'on se regarde entre nous. Non, si tu as des amis chrétiens qui vont dans une autre église, gloire à Dieu. Mais il faut que nous soyons conscients d'un combat spirituel aussi. Et les amis sont des gens qui nous soutiennent, qui nous confrontent pour avancer dans la bonne voie. Dites amen si vous le croyez. Alors, on ne parle pas beaucoup, je pense, des amitiés dans l'Église, mais je crois réellement que c'est quelque chose qui est fort sur mon cœur alors que je préparais et j'étudiais ce message. Et je crois qu'aujourd'hui, ouvrons nos cœurs pour ce que Dieu a à nous dire pour les amitiés. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Compte sur moi ». Il faut qu'on puisse dire dans notre vie aux gens autour de moi « Compte sur moi ». Il faut que dans, autour de nous, tu puisses, toi, avoir des gens, 2, 3, 4, 5, 10 personnes à qui tu peux dire « compte sur moi ». Dites-le avec moi, « compte sur moi ». Et il faut que nous puissions avoir des gens aussi qui nous disent ça pour nous rassurer. Quand on passe des moments difficiles, il nous faut des gens qui puissent nous dire « Hey, compte sur moi. T'inquiète pas, je suis là avec toi. » Oh, téléphone, on va peut-être le mettre sur silencieux. « Compte sur moi. » Il y a quelqu'un qui disait « Le vrai moyen de savoir qui sont tes amis, c'est de les inviter à ton déménagement. » Tout le monde rit parce qu'on a déjà tous invité beaucoup de monde. Tu fais un événement Facebook, 500 personnes invitées, 3 personnes qui viennent, c'est tes voisins. Ok, wow. Il y a comme quelque chose que... Et ils viennent, mais ils ont mal au dos. Donc, ils ne peuvent pas trop... je peux t'aider en pensée. Tu sais, regarde, fais comme ça. T'as déjà eu du monde comme ça? Des chefs de chantier, mais qui ne touchent à rien. Tu sais, comme, ouais, ce carton-là, il faudrait que tu le mettes là. Des maîtres du Tetris, mais qui ne touchent à aucun carton. Ne venez pas à mon déménagement, j'ai plus besoin de bras que de cerveau, mais en tout cas, le cerveau, c'est ma femme qui l'a. Moi, je fais les cartons. Oh, tu vois? Comme quoi, hein? OK, compte sur moi. Le titre du message, c'est « Compte sur moi ». Et la première vérité qu'on va voir aujourd'hui, qu'on veut entendre et que nous voulons dire, c'est « Compte sur moi », premier point, pour te comprendre. Un ami, c'est quelqu'un qui peut te comprendre. Tu dois être un ami qui comprend les autres. Proverbe 18, 24 dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. » As-tu des amis qui se sont transformés en frères et sœurs au fil des années? Où tu te dis, il y a quelqu'un, on n'est pas du même sang, on n'est même pas de la même couleur, on n'est même pas du même statut social, mais il y a quand même quelque chose de très fort, parce que quand on se parle, il y a une connexion qui est là. On se comprend, il y a comme des atomes crochus. On se comprend, on n'a même pas besoin de parler et on se comprend. Un seul regard, on se comprend. Des fois comme un vieux couple marié, tu te rappelles? Juste un soupir, est-ce que ça veut dire un soupir qui va bien ou un soupir qui est « oh, oh, là, il faut changer ». Il y a comme des choses où on se comprend sans même se parler. On a besoin d'amis qui sont autour de nous et on n'en a pas besoin beaucoup. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit « moi, j'ai l'impression que Salomon savait déjà en écrivant il y a des millénaires le problème qu'on aurait avec Facebook aujourd'hui. On a tous plein d'amis Facebook, des milliers d'amis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment tes amis ? Des fois, tu as des amis, mais tu l'as pour ton malheur. C'est des gens qui vont regarder ta vie, aller regarder un petit peu, genre, juste pour être jaloux, pour essayer de parler derrière ton dos. Ça, ce n'est pas forcément des amis. Ils s'appellent amis Facebook, mais en fait, c'est plus des stalkers qui veulent essayer de voir ta vie en même temps. Si vous êtes le stalker qui essaye de voir la vie des gens, repentez-vous ce matin. C'est comme un voisin qui est tout le temps en train de regarder derrière la haie, comme ça. Hein. Non, nous avons besoin, pas forcément beaucoup d'amis, mais on a besoin des amis de qualité. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Il y a des relations qui sont le résultat de nos circonstances. Quand tu vas à l'école, à la job, quand tu habites quelque part, il y a des relations avec qui il y a des amitiés, des gens qu'on côtoie, des compagnons qui sont le fruit de nos circonstances. Mais nos amitiés, nos confidents doivent être le résultat de nos choix. Si en ce moment, tu faisais un bilan dans ton cœur, en ce moment, est-ce que mes amis sont de bons amis? Et je ne parle pas juste, est-ce qu'on a du bon temps ensemble? Le bon temps, c'est une chose, mais dans le mauvais temps, c'en est une autre. Est-ce qu'en ce moment, quand tu passes des saisons sèches spirituelles, est-ce que ce sont tes amis qui t'emmènent au pied de la croix? Ou est-ce que tes amis, justement, te disent « Hey, regarde, ça ne sert à rien ta religion, là, viens avec nous, on va te faire oublier tes problèmes. » Est-ce que... Non, mais réellement, parlons vrai. Parce qu'alors que pendant des années, j'ai prêché le thème de l'amitié à des adolescents, et c'est très important à l'adolescence de choisir ses amis. À travailler avec toutes les générations aujourd'hui, je me rends compte que c'est un problème de toutes les générations. Il y a des gens très matures, spirituels, qui ont des très mauvaises amitiés, des gens toxiques autour d'eux. Ou c'est pas un problème juste de « Ah, t'es immature, tu sais pas choisir tes amis ». Non, des fois, on se laisse influencer par des gens qu'on laisse avoir un impact dans notre vie qu'on ne devrait pas. Et Jésus était l'ami des pécheurs. Ne vous trompez pas, je dis pas « Il faut qu'on reste entre nous ». Non, Jésus était connu comme l'ami des pécheurs. Par contre, Jésus comprenait chacun qui venait à lui, même des gens qui étaient complètement loin des voies de Dieu. Jésus les comprenait, mais Jésus, lui, les influençait. Es-tu, toi, plus influencé par tes amis ou est-ce que c'est toi qui influences tes amis? Jésus influençait les gens autour de lui. C'est pour ça que même les pécheurs étaient attirés par sa lumière. Par contre, Jésus s'éloignait des gens toxiques. Malheureusement, c'était souvent les religieux. Les gens qui devaient connaître la parole, qui devaient vivre, puis Jésus trouvait des moyens pour juste esquiver parce que des fois, c'était manipulation. Il faut qu'on puisse avoir le discernement par la sagesse qui vient de Dieu. De Seigneur, montre-moi qui est en train de me comprendre et m'aider à avancer mieux ou qui est en train d'essayer de me manipuler, essayer de me mettre dans une boîte. Avez-vous déjà été avec une personne qui vous vide de votre énergie? Tu parles 2 minutes avec elle et tu as l'impression d'avoir besoin de vacances. C'est juste que c'est ton premier jour de vacances et c'est ton voisin de palier à Punta Cana. T'es comme, ah, pendant... On a déjà eu tous ce voisin-là. Par contre, il y a l'autre extrême. Tu parles avec quelqu'un pendant 20 minutes, puis tu as l'impression que, waouh, je suis ressourcé. Il y a comme un soleil qui est venu dans ma journée. Il y a comme quelque chose que je me sentais mal et j'espère que vous êtes des soleils pour les gens autour de vous. Parce que nous devons être la lumière, pas seulement par notre connaissance de la parole, mais par notre action de la parole. Les gens sont les premières, tu es la première Bible que les gens vont lire. Alors, est-ce qu'en ce moment, tu proclames la bonne nouvelle par qui tu es? C'est pas obligatoire de se lever à la cafétéria et puis de proclamer juste le nom de Jésus à tout le monde. Non, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire. C'est dans nos discussions, dans nos amitiés, en étant nous des amis fidèles. Est-ce qu'en ce moment, tu peux être toi celui qui encourage les autres, que les autres aiment se tenir avec toi, comme Jésus? Il attirait les foules à lui et il les nourrissait par la bonne nouvelle. Alors, il faut qu'on trouve des gens qui nous comprennent comme des frères. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Attention à vouloir connaître tout le monde sans que personne ne nous connaisse vraiment. Nos amis, ce n'est pas besoin d'en avoir beaucoup, non, il nous en faut peu pour que nous puissions avoir des confidents ensemble. Quelqu'un qui t'écoute sans te comprend sans jamais même te juger. Et alors que je lisais ce verset dans Job 6, 14, qui dit « Job est en train de vivre une saison de sa vie difficile où tout part en fumée autour de lui. Mais lui reste droit devant Dieu. Il a la crainte de l'Éternel, Job. Mais ses amis qui veulent essayer de l'encourager sont en fait ceux qui vont le décourager le plus. » Et Job dit quelque chose de fort à ce moment-là. Il dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » C'est fort. Est-ce qu'en ce moment, des fois, toi, tu te dis « Oh, j'ai des amis, mais dès qu'il y en a un qui passe une crise de foi ou qui ne sait plus vraiment où il est ou alors qui juste abandonne la foi, on ferme les portes et maintenant ça devient un ennemi. » Alors qu'en fait, c'est le moment où il a le plus besoin de toi. Il a le plus besoin que tu lui rappelles l'amour de Dieu. La compassion de Dieu. Des fois, les gens quittent, veulent revenir, mais se disent, non, regarde, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je suis trop hypocrite, je suis trop... Hey, rappelez-vous, le fils prodigue est revenu alors qu'il était vraiment parti loin. Son père l'a accueilli, le père qui est une représentation de Dieu. Mais son grand frère n'était pas très content qu'il revienne. Que nous soyons jamais comme le grand frère qui regarde en disant, ah ouais, toi t'es parti loin là et puis tu veux revenir comme ça. Non. Qu'on soit comme le père, l'amour, la compassion du père qui dit, reviens à moi mon fils. Nous devons être connus comme des personnes qui sont amis de ceux qui sont aussi pécheurs et qui tombent et qui se relèvent. Quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui prie avec la personne et peu importe ses circonstances, lui est un ami fidèle. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que les gens proches de toi ressentent plus que tu haïs leur conduite ou que tu les aimes inconditionnellement? Parfois, en tant que chrétien, tu te dis « Oh, je connais tellement la parole, je veux tellement proclamer la vérité » qu'en fait, quand quelqu'un, tu parles avec quelqu'un qui n'est peut-être pas croyant, tu lui dis tout ce qui va mal dans sa vie, tout ce qui va mal. Donc en fait, lui, il repart plus avec un côté où « Oh, lui, il haït tout ce que je suis, mais je n'ai pas entendu vraiment la bonne nouvelle. » Alors que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que oui, le péché est destructeur, mais Dieu, dans son amour, nous a aimés inconditionnellement. Il a même livré son Fils. Donc oui, il y a une conséquence à ta destruction, mais en fait, il y a un remède à ça. Et c'est la bonne nouvelle de Jésus. Alors nous devons être connus comme des gens qui aiment plus les gens que nous haïssons le péché. Vous me comprenez? Jésus était 100% grâce et 100% vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui haït plus le péché que Jésus. Mais il n'y a pas quelqu'un qui aime le pécheur plus que Jésus. Nous devons être une représentation de Jésus ici, dans nos amitiés, dans les gens qui sont autour de nous. Nous devons être grâce et vérité. Montrons notre amour et ensuite confrontons. On ne peut pas prendre juste la grâce ou juste la vérité. Maintenant, montrons que nous aimons, que nous protégeons, que nous sommes là pour entendre, pour comprendre la personne. Et ensuite, expliquons-lui la parole de vérité qui est là pour libérer. Est-ce qu'on peut remercier la parole de Dieu et applaudir notre Dieu qui a pourvu à des conseils qui sont parfaits, une vérité qui libère? Compte sur moi. Première chose, c'est pour te comprendre. Deuxième point, c'est pour être présent quand il le faut. Première chose, compte sur moi pour te comprendre. Deuxième chose, pour être un bon ami, pour être présent quand il le faut. Est-ce que tu es là, présent, quand les autres ont besoin de toi? C'est fort parce que Proverbe 17:17 dit « L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. » As-tu des gens qui sont là autour de toi pour t'aimer et célébrer en toutes circonstances? L'ami aime en toutes circonstances. Quand ça va bien, est-ce que tu as du monde à qui tu peux partager les bonnes nouvelles? As-tu des gens avec qui tu peux célébrer quand tu gradues, quand tu te maries, quand juste tu as une réponse à ta prière? As-tu des amis à qui, après ta famille, là, tu vas leur annoncer, voici ce qui se passe, voici comment Dieu a agi, voici, on a prié pour la guérison de quelqu'un. As-tu des gens avec qui tu célèbres? Après 2 ans et demi de pandémie, là, des fois, on se dit, ah, je ne sais plus vraiment, là, on a pris des distances. As-tu en ce moment le goût de revenir avec une communauté avec qui tu peux célébrer les bonnes nouvelles? Parce que réellement, on a besoin d'avoir des gens avec nous avec qui on rit, avec qui on célèbre les bonnes nouvelles, parce que Dieu veut qu'on vive cette vie ici, pas en la subissant, mais en étant épanoui dans nos relations. Nous avons besoin de rire avec des gens. Et même, je regardais une vidéo cette semaine qui était drôle, parce que des fois, des grands fous rires, c'est incroyable. Ça peut être l'ascenseur émotionnel. On rit avec les gens rient de nous, et ensuite, c'est nous qui rions des autres. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous faire rire ou sourire. Ses amis n'encouragent pas vraiment. On a tous un ami qui est plié de rire en arrière, comme ça. Finalement, ça fonctionne. Et l'ami dit, regarde, je vais te montrer comment ça se fait. Voici comment tu devrais faire. Voilà, on se prépare. Et bim! En toutes circonstances, tu dois pouvoir avoir des amis avec qui tu ris. Combien sont reconnaissants pour la fin de la pandémie, déconfinement, où on peut prendre du temps avec ses amis, rire, passer du bon temps, aller au cinéma, regarder un bon film. Il faut qu'on profite. Et l'été arrive. Reprenons vraiment une saine habitude de cultiver nos relations les uns avec les autres, alors qu'on a été coupé de ça. Je pense réellement que c'est une bénédiction de la part de Dieu. Jésus avait des amis autour de lui. Jésus avançait dans cette vie en étant avec des gens autour de lui qui marchaient avec lui dans cette vie. Jésus n'était pas seul. Il pouvait seul accomplir sa mission pour toute l'humanité, mais Jésus a décidé d'amener 12 personnes avec lui en disant, voici maintenant, je vais vous apprendre comment faire et comment continuer mon œuvre. Et j'aime la série The Chosen, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi. Moi, je suis très biblique dans le sens où je regarde une série qui est comme à caractère chrétien, il faut qu'elle soit biblique. Et The Chosen, sérieusement, je suis vraiment impressionné par son côté très scriptural et tout ça. Mais on voit une nouvelle facette de Jésus dans son côté humain, où Jésus, tu le vois rire avec ses disciples. Alors que d'habitude, si tu fais un film sur Jésus, tu prends sa crucifixion. Donc, il y a comme un 3 heures, par exemple, La Passion du Christ, où c'est vraiment très sérieux. Alors que The Chosen, ça remonte à un côté où voici comment Jésus a choisi ses disciples. Mais de vivre 3 ans avec du monde, ça ne devait pas être sérieux et plate pendant 3 ans, difficile, wow, c'est dur le ministère. Non! Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Ça veut dire qu'il avait les meilleures blagues, les meilleures jokes, elles étaient divines. Donc Dieu... Si Jésus est l'auteur du rire et de la joie, vous ne croyez pas qu'il pourrait faire des blagues? Je suis persuadé. Ça peut peut-être changer votre vision de Jésus là, en ce moment-là. Mais vraiment, 100% Dieu, 100% homme. Oui, c'est sérieux ce qu'il a fait pour l'humanité. Le sacrifice de Jésus, on peut pas rire avec ça. Non, il y a une révérence. Mais en même temps, Jésus a dit qu'il était notre ami. Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave. Non, je vous appelle ami. Donc quand on est ami avec quelqu'un, on célèbre les bonnes nouvelles. Il faut que nous puissions avoir des gens autour de nous avec qui on peut célébrer les bonnes nouvelles. Est-ce que je peux dire entendre un amen? Et le verset continue, il dit, « Mais dans le malheur, il se montre un frère. » Un ami fidèle, dans le malheur, se montre un frère. À 3 heures du matin, quand tu vis une pire des crises de ta vie, parce qu'on en vit tous à un moment donné, hein, qui tu appelles? Combien as-tu de numéros d'urgence à qui tu peux appeler, réveiller la personne sans qu'elle te juge, en étant à l'écoute, en disant, regarde, s'il faut là, je me déplace, est-ce qu'il faut qu'on prie ensemble? As-tu du monde en ce moment, solide, que dans le malheur, il se remonte des frères, et quand c'est frères, frères et sœurs? Est-ce que tu as des amis, des gens autour de toi qui sont solides et qui se montrent dans le malheur des frères et des sœurs? Ou est-ce que quand tu vis une crise dans ton mariage, la personne, comme tu as des amitiés qui ne sont pas forcément basées sur la parole de Dieu, tu vas voir un ami au collège, à ton travail, qui lui, il a une blonde tous les 6 mois, il change depuis 4 ans, et c'est lui qui va te conseiller sur ton mariage. On rigole, mais en fait, c'est proche de la réalité. En ce moment, as-tu des personnes qui peuvent te guider selon la parole de Dieu? Puis je ne suis pas en train de dire que les chrétiens sont meilleurs que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je dis juste que les chrétiens savent qu'ils sont faibles et qu'ils ont besoin de se baser sur la parole de Dieu, recevoir par l'Esprit de Dieu un discernement, une sagesse qui vient de lui pour marcher en progression. On n'est pas meilleur qu'eux, au contraire. On s'avoue encore pire qu'eux, on s'avoue pécheur et on a besoin d'un sauveur. Mais c'est pour ça que nous avons tous besoin de marcher avec une communauté qui avance selon la bonne voie. Parce que si tu vas là-bas avec ton mariage, il ne faut pas demander à quelqu'un qui n'y croit pas. Au contraire, il faut que nous puissions trouver, et je crois réellement que c'est pour ça qu'on a une église locale, on doit trouver ici tout ce qu'on a besoin. Nos relations sont tellement importantes que Dieu a pourvu une famille spirituelle. Nous devons avancer avec des gens qui peuvent, dans les moments difficiles, être des frères et sœurs, une famille spirituelle. Encore à la première réunion, à la fin de la première réunion, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Oh, merci pour le message, ça m'a tellement rassuré », puis il avait un grand sourire. Pourtant, c'est cet homme qui vient de vivre le deuil de son épouse cette semaine. Et il vient me voir et puis il me dit « Oh, ça m'a fait du bien », puis regardez, j'ai mes amis autour de moi, puis il célébrait ses amis, puis il me dit « Mais j'ai vécu le deuil », puis je ne le connaissais pas, on l'a prié pour lui cette semaine, on l'a accompagné, puis Hélène et Jacques le connaissent bien, on l'a accompagné, on prie pour lui, mais je ne le reconnaissais pas, ce qui fait que j'étais surpris parce qu'il était souriant, et puis il dit « Oh, J'ai tellement des amis qui sont solides en ce moment pour moi, pour me soutenir, pour célébrer avec moi et pour pleurer avec moi. » J'étais wow. Mais ça, c'est exactement l'illustration parfaite que dans le malheur, il se montre des frères, des gens qui te soutiennent quand tu n'as plus de force, des gens qui te disent, regarde, la parole de Dieu, voici. On n'a pas toutes les réponses dans ce qui se passe aujourd'hui, mais on a celui qui vient nous consoler, celui qui vient nous donner la vérité, celui qui apaise nos craintes. C'est ça qu'on a besoin. As-tu en ce moment des gens autour de toi que tu peux dire, j'ai besoin de toi parce que là, en ce moment, je vis un grand malheur? Si tu me dis non à cette question, la bonne nouvelle, c'est que l'Église est là et Dieu est là. Et je crois réellement qu'il vient pointer des situations aujourd'hui dans ta vie pour te dire, arrête d'être seul, commence à faire des efforts pour peut-être connecter avec des gens parce que j'ai pourvu ici du monde qui peut marcher avec toi et peut grandir avec toi. Alors ne cherche pas dans le monde entier ce que tu as ici. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu pour l'Église locale et l'école, la famille qui nous donne? Des fois, j'entends des gens qui me disent « Mais moi, je voudrais ces amis-là, mais je n'ai pas d'amis dans l'église. Je n'arrive pas à connecter, puis j'ai beaucoup plus d'amis au travail ou à l'école, puis c'est difficile. » Réellement, je vais adresser cela. Pourquoi tu as des amis à la job? Parce que tu es obligé d'aller à la job. Pourquoi tu as des amis à l'école? Parce que tu es obligé d'avoir des amis à l'école. Notre mode social de survie, c'est que si je suis obligé d'être dans un endroit, mieux vaut que je m'épanouisse avec les autres qui sont autour de moi. Si je demande à mon fils le lundi matin, veux-tu à l'école ce matin? Veux-tu y aller? Il va me dire non. Tous les lundis, ça va être la même réponse, n'est-ce pas? Avez-vous envie d'aller à votre job le lundi matin? Des fois, non. Tu as envie que le week-end dure 4 semaines. Mais comme tu dois y aller, tu t'adaptes. Et entre guillemets, tu fais un effort pour pouvoir être en relation avec les gens autour de toi. Fais-tu autant d'efforts quand tu viens à l'église? Ou est-ce que tu viens, tu rentres, tu prends et tu repars? L'église aujourd'hui, et puis réellement, elle est en 3 phases. La louange et l'adoration, quand on vient ici, le Ben nous amène dans un temps d'adoration et c'est fort. Ça, c'est comme pour moi les piliers de l'église, là, et dans la réunion du dimanche matin que je parle. La louange et l'adoration, on vient et puis on célèbre notre Dieu, le nom de Jésus, celui qui nous a sauvés. On se rappelle de ses bontés, on proclame sa grandeur. Est-ce que vous aimez la louange à Nouvelle Vie? La deuxième, c'est la prédication de la parole, la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand Dieu nous parle, il nous parle en tant que communauté. Il y a quelque chose qu'on reçoit de sa parole. La troisième, c'est la communion fraternelle. Et ça, souvent, dans nos églises un petit peu nord-américaines, occidentales, c'est l'agenda est tellement rempli, même la fin de semaine, qu'on vient, on va à l'église rapidement et puis on repart chez nous. Et puis là, tu te dis, tu penses déjà quasiment à ton Ben et Florentine que tu vas aller en disant, il faut qu'on arrive les premiers avant que tout le monde y va parce que sinon, on n'aura pas de place. Change. Le dimanche, prends ton temps ici. À la fin du message, alors qu'on a célébré Dieu, alors qu'on a connecté avec lui, lui veut nous faire connecter avec les autres. Nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire que nous devons marcher ensemble, connaître ensemble, avancer ensemble, prier ensemble. Est-ce qu'en ce moment, si tu te dis « j'ai pas assez d'amitié de qualité », est-ce que tu as fait des efforts pour en avoir? Parce que tout ce que tu recherches est ici. Et je le crois réellement. Il y a des connexions spirituelles que Dieu veut nous faire et nous sommes dans un lieu refuge, là où tu peux être vulnérable. Dieu veut que tu avances avec des gens. Le meilleur moyen d'avoir des amis, c'est d'en être un. Ça paraît une punchline assez ridicule, mais en fait non, réfléchissez bien. Le meilleur moyen d'avoir des amis, c'est d'en être un. Est-ce que tu attends que les autres viennent à toi ou est-ce que toi tu dis « non, je vais aller ». Jésus a été choisir ses amis. Il a dit « toi, 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 toi ». Nous, Il faut qu'on aille en disant, Seigneur, montre-nous, nos enfants NV Junior se font des amis à chaque dimanche. Est-ce qu'on pourrait devenir amis en tant que famille et commencer à parler, à s'exprimer? Réellement, on ne regrettera jamais d'avoir été vers quelqu'un en étant bien intentionné, en disant, hey, on aimerait apprendre à vous connaître, est-ce qu'on pourrait aller manger à Ben et Flo au lieu d'être dans trois tables différentes? Faisons une grande table, les serveuses vont être contentes, il y aura un plus gros type, n'est-ce pas? Et puis, il y a quelque chose de fort à l'unité dans l'Église, pas seulement l'unité spirituelle, mais aussi relationnelle. Je vous vois dubitatif, j'espère que vous recevez le message aujourd'hui. Mais je crois que Dieu veut réellement nous réveiller en disant, après 2 ans où on a été comme difficile à se voir, on ne pouvait même plus se voir. Il y a comme un côté où un renouveau, un vent de fraîcheur. Si tu te sens seul en ce moment, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les groupes Nouvelle Vie, et chaque semaine, il y a des témoignages de gens qui passent par des moments, soit de célébration, graduation, des choses, ou des moments de malheur, où les gens se mobilisent, font des repas pour quelqu'un qui est malade, ou dans justement le deuil, les entourent, prient pour eux, prient avec eux. Il y a quelque chose de fort dans l'unité. Et je rigolais avec Jacques et Hélène ce matin parce que la saison des groupes arrive à sa fin. Mais la prochaine fois, au mois d'août, quand on va dire la session des groupes recommence, sois le premier à dire « je m'inscris ». Parce que c'est dans les groupes qu'on peut trouver des amis, des gens avec qui on peut grandir. Parce qu'il faut que tu comprennes. Compte sur moi, il faut qu'il y ait des gens qui puissent dire « compte sur moi » et que tu puisses le dire pour te comprendre, pour être présent quand il le faut. La troisième chose, il faut que tu puisses dire « compte sur moi » pour te pousser vers le haut. Est-ce qu'en ce moment, tu défies quelqu'un à aller plus haut dans sa relation avec Dieu? À être quelqu'un qui va de mieux en mieux, à être un bon époux, une bonne épouse, un bon étudiant, à être quelqu'un qui veut commencer son entreprise, mais qui va le faire de manière, qui va faire de manière droite et intègre. Est-ce qu'en ce moment, tu es en train de pousser quelqu'un vers le haut? Ou est-ce que tu es toujours, oh ben j'attends que les autres autour de moi me poussent? Non, est-ce que toi en ce moment, tu es impliqué? Tu dis à quelqu'un, compte sur moi. Tu as un projet là dans 6 mois d'aller faire un voyage autour de la Terre. Garde, compte sur moi, je vais t'aider, je vais prier avec toi. Est-ce qu'en ce moment, tu es un ami sur qui on peut compter? Compte sur moi pour te pousser vers le haut. C'était mon troisième point. Proverbe 27, 17, c'est un de mes préférés du livre des Proverbes, dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » C'est fort. Avez-vous déjà aiguisé un couteau? Un couteau qui ne coupe plus. Un couteau, normalement, il y a une utilité seulement, c'est de couper. On ne veut rien qu'il fasse d'autre, on veut qu'il coupe. Mais quand il ne coupe plus, ben, on ne le jette pas, on l'aiguise. Aiguiser, c'est de le frotter contre une paroi qui, entre guillemets, fait mal, qui est comme corrosive. Pour un moment donné, on arrive à avoir une lame qui est aiguisée. Le fer aiguise le fer. L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Nos amitiés doivent nous pousser vers le haut. Ça prend de la patience et ça prend de la persévérance. Mais pour nous rendre meilleurs, pour être aiguisés dans ce qu'on doit faire, est-ce qu'en ce moment, tu as tellement personne qui t'aiguise que tu es juste en train d'être émoussé dans ta vie? Et tu n'as plus aucune acuité spirituelle, tu n'as plus aucun discernement, tu prends des décisions juste émotionnelles ou juste... Est-ce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui te rappelle à l'ordre? Quelqu'un dira, non, je n'ai pas besoin de ça, j'ai le Saint-Esprit. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise les faux raisonnements. Le Saint-Esprit vient nous révèle des choses de la parole de Dieu, vient nous montrer des choses. Mais le Saint-Esprit nous montre combien nous sommes le corps de Christ. Si une main est coupée du corps, elle n'avancera pas longtemps. Parfois, on croit qu'être isolé du corps, on n'a pas besoin, juste parce qu'on a la tête. Une main ne peut pas être connectée à la tête. Une main doit être connectée au bras, qui doit être lui connecté à l'épaule, qui doit être lui connecté. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être juste tous connectés à la tête sans être... Non, il faut qu'on soit connectés ensemble. Je suis très imagé aujourd'hui, mais c'est important. Il faut qu'on comprenne que nous avons besoin, et Dieu, je crois réellement, a pourvu une forme de bénédiction et de révélation quand son corps est uni ensemble, quand 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu du camp. Quand on le loue ensemble, Jésus siège au milieu des louanges de son peuple. Le Saint-Esprit veut te donner les conseils que tu as besoin au travers de quelqu'un qui va ouvrir la bouche et la parole avec toi. Donc Dieu veut que tu sois connecté avec des gens pour se révéler à toi à travers eux et à eux à travers toi. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Nous avons besoin d'être entourés de bonnes personnes qui nous poussent vers le haut. Un bon ami qui te pousse vers le haut, c'est quelqu'un qui te dit la vérité avec franchise. Et ça fait mal. C'est aiguisé, puis on n'aime pas hein, se faire entendre dire des choses qui nous reprennent. Mais on en a tellement besoin. David disait, « Sonde mon cœur, oh Dieu, vois si je suis sur une mauvaise voie et redirige-moi. » Est-ce que tu as des gens aujourd'hui, en ce moment, qui peuvent te regarder dans les yeux et te dire, « Regarde, en ce moment, il y a 3 semaines, tu avais dit ça, puis je pense vraiment qu'il faudrait que tu... » Est-ce que tu as du monde qui peut te dire les vérités? Ou est-ce que tu les esquives? Oh, eux, là, ils me disent trop ce que je dois faire. Non, je ne te parle pas des gens qui te manipulent, mais est-ce que tu as des amis qui t'aiment assez pour te dire la vérité? Ou est-ce qu'en ce moment, personne ne veut te parler parce que justement, t'es pas quelqu'un qu'on peut aborder avec quelqu'un où tu peux être libre? Est-ce que tu as des gens qui peuvent te dire la vérité? Même si ça fait mal, c'est toujours pour notre bien. Parce qu'on a besoin d'être repris avec franchise. On a besoin, nous également, c'est notre devoir de reprendre. Si un de mes amis fait quelque chose de mal, j'ai le devoir de le reprendre. Je ne peux pas juste dire, regarde, c'est sa vie, je ne regarde pas. Non, notre société est individuelle, elle dit, regarde, chacun vit sa vie, là. Au pire, je le filmerai sur Instagram s'il fait quelque chose, là. Mais... Non, il faut que nous soyons là en disant, regarde, laissons de côté les foules, regarde, il faut vraiment que tu arrêtes de faire ça. Tu as fait des jokes là, en ce moment-là, et puis c'était pas quelque chose qui était bon pour toi. Pas quelqu'un qui est toujours en train de te reprendre, mais quelqu'un qui peut célébrer avec toi et te reprendre parfois. Si tu n'as pas ces personnes-là en ce moment, je crois réellement que nous avons tous besoin d'avoir des gens qui viennent et qui nous aiguisent. Combien veulent être aiguisés aujourd'hui? Ça va dans les deux sens, hein? Il faut aussi, il y en a qui disent, oui, moi, en fait, c'est mon mari qui a besoin d'être aiguisé. Quelqu'un veut être... Ça va dans les deux sens, il y a comme un partage, le fer aiguise le fer, c'est qu'on s'aiguise les uns les autres. Il faut également, quand on s'aiguise, se pardonner réciproquement. C'est Jean 17, 9 qui dit, c'est Jésus qui parle, « Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Plus on est proche, comme je l'ai dit tantôt, plus on est proche, plus on se blesse. Ceux qui sont en couple depuis plus de 24 heures, vous le savez. T'aimes inconditionnellement l'autre, mais comme on est proche et qu'on vit ensemble, on est tellement proche qu'on se blesse, même intentionnellement, non intentionnellement, comment on dit ça? Ok, vous me suivez. Il y a un côté où j'ai pas fait exprès, mais on est des êtres humains imparfaits, ce qui fait qu'on blesse les autres, même si c'est pas notre intention. Et il faut se pardonner. Est-ce qu'en ce moment, quand je parle d'amitié, quand je parle de se pardonner, est-ce qu'il y a une offense qui reste là et que tu dis non, celle-là, là, je la passerai pas? Il y a comme un côté où, parce que c'est vrai, hein, quand on parle d'amitié, c'est la base, mais c'est la souffrance. Mais il faut, comme dans un couple, il faut qu'on puisse apprendre à se parler, à communiquer, à se pardonner, à se demander pardon. Si en ce moment tu dis « Oh, j'ai du mal à pardonner », est-ce que toi tu es connu comme quelqu'un qui demande pardon facilement? Ou est-ce que là aussi, regarde, on ne parle pas de choses qui fâchent, on lâche ça, puis on change d'amis. Non. Ne va pas chercher loin ce que tu peux avoir là. Dieu a mis des gens autour de toi, peut-être que tu as besoin d'être réconcilié avec eux. Et même si tu dis « Oui, mais c'est des amitiés toxiques, je ne veux pas », réconcilie-toi dans le sens où pardonne. Ça ne veut pas dire que tu reviendras à une amitié confidente, non. Maintenant, c'est qu'il faut que l'offense soit enlevée. Quand Jésus nous enseignait à comment prier, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-nous nos offenses, Père, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que si Jésus te demande aujourd'hui, est-ce que tu es clean sur l'ardoise du pardon et de la réconciliation? Ou est-ce que dès qu'on te parle de ça, tu as une situation qui vient, tu as un visage qui est là? Parce que Dieu aujourd'hui veut te donner les clés pour être libéré de ça. Et autant il veut que tu aies des bons amis, autant il veut que tu règles les blessures des amis précédents. À la première réunion, il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant « Moi, je voulais bien, j'ai été vulnérable avec quelqu'un, mais il n'avait pas de confidentialité. » Ça veut dire qu'il a donné à tout le monde ce que moi, je lui avais confié. Dans l'amitié, il y a quelque chose de fort. Il faut qu'on soit des gens, qui gardons les secrets. Il y a une part de vie privée. Et puis, alors que je termine, les musiciens vont me rejoindre. Quand on parle du fer qui aiguise le fer, moi, depuis qu'on est arrivé au Québec en 2008, on est arrivé en tant qu'étudiant et jeune marié. On s'est marié avec Sophie le 28 juin 2008 et on est arrivé ici 2 mois après, 24 août 2008. Donc, la nouvelle vie, c'était littéral. Donc, j'étais nouveau marié, plus vraiment de repères familiaux ou quoi. Et puis, on commence dans un nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle. Je revenais aux études, Sophie travaillait. Et là, je priais vraiment en disant, « Seigneur, il faut que tu mettes des gens autour de moi avec qui je pourrais avancer. » Et puis, j'ai rencontré Emmanuel Hippolyte, pasteur Emmanuel Hippolyte que vous connaissez ici à La Prairie, qui maintenant est pasteur à l'église de Mosaïque à Québec. Et ça, c'est Emmanuel et ça, c'est Josias, pasteur à l'église La Chapelle à Gatineau, qui va venir d'ici quelques semaines apporter le message. Vraiment un prédicateur incroyable. Puis ces deux amis-là sont incroyables parce qu'on peut, parler de tout. Mais c'est incroyable avec Emmanuel. On s'est rencontrés peut-être en 2009-2010. Et alors qu'on était artistes, les deux, on faisait de la musique, on a commencé à nouer une amitié. Et puis, de fil en aiguille, on s'est vu qu'on est tous les deux étudiants, on est jeunes mariés tous les deux. Et puis on recherchait vraiment un côté où on a besoin d'amis avec qui on peut se confier. Je connaissais toute l'église, tout Impact Jeunesse était mes amis. Mais il n'y avait personne avec qui je pouvais me confier. Et personne à qui je pouvais confesser des choses. Et avec Emmanuel, on a commencé à faire un partenariat de redevabilité. Et je vous explique brièvement ce que c'est. On a lu un livre, qui s'appelle « L'homme derrière le miroir », je pense. Et il expliquait qu'en tant qu'homme qui voulait avancer dans notre vie, nous devions avoir des amitiés et une redevabilité. C'est-à-dire une ou deux personnes à qui on peut être libre ouvert complètement. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut nous demander en ce moment comment ça va dans ta relation avec Dieu. Et tu ne dis pas juste « ça va, gloire à Dieu, merci, à dimanche prochain ». Non, 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 non. Le partenaire de redevabilité, c'est qu'on se rencontre à toutes les deux semaines. Quand il était sur la rive sud, c'était plus simple. Mais en ce moment, on fait par FaceTime. Parce que nos vies ont été comme d'étudiants, jeunes mariés, ensuite parents, ensuite pasteurs, ensuite... On a évolué dans chaque situation de nos vies. Donc, c'est plus compliqué de prendre un Tim Hortons à 8h du matin toutes les deux semaines, surtout quand tu habites à Québec et sur la rive sud de Montréal. Mais c'est quelque chose de fort parce que toutes les deux semaines, on prenait une heure et deux et on passait par une liste de questions qu'on avait lues dans le livre qui était vraiment intéressante. Il y a quelqu'un à la première réunion qui m'a dit « Est-ce qu'on pourrait avoir cette liste ?» Oui, je vais la poster quelque part sur Facebook ou écrivez-moi par courriel, je vais vous la donner. Mais c'était vraiment fort parce qu'on passait par une série de questions où on disait « Je veux être un meilleur mari, je veux être un meilleur papa, je veux être un meilleur homme de Dieu, je veux être un meilleur chrétien, un meilleur citoyen, un meilleur collègue. Comment je peux le faire ?» Ben, on va le faire ensemble. Et selon la parole de Dieu, on se posait des questions comme hey, « Comment va ta relation avec Dieu aujourd'hui ? Comment va ta vie de prière ? Comment grandis-tu dans ta générosité ? Comment va la convoitise dans ta vie ? Est-ce que tu gardes tes yeux juste sur ta femme ou est-ce qu'en ce moment tu es en train de vagabonder partout ? Est-ce qu'en ce moment tu te gardes droit ? Avez-vous des personnes qui peuvent vous poser des questions comme ça ? Il y a du monde qui va poser des questions et puis ils n'ont rien à voir avec vous dans la vie. Mais il y a des gens vraiment que tu dois choisir en disant « Je veux vraiment qu'on se connecte ensemble. » Pour qu'ensuite on se défie, on priait toujours à la fin en disant « Seigneur, aide-nous à devenir meilleurs, aide-nous à gérer ces choses-là. » As-tu quelqu'un en ce moment que tu peux confesser tes péchés ? Et me dis pas « Oui, j'ai Dieu. » Oh non, c'est certain. Dieu pardonne le pécheur qui vient à lui et qui se repent. Maintenant, dans Jacques 5, c'est marqué « Confessez vos péchés les uns les autres afin d'avoir la guérison. » Il y a comme quelque chose où Dieu dit « T'as le pardon ici, t'as la guérison ici. » Dieu seul peut guérir, peut donner. Oui, mais il choisit de le faire au travers de son peuple. C'est incroyable. Nous sommes juste des vases d'argile, mais qui contiennent son huile. Et quand elle est débordante, elle est magnifique. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, je crois réellement que je suis un meilleur homme de Dieu grâce à Emmanuel. Je crois que je suis réellement un meilleur mari grâce à Emmanuel. Je crois que je suis un meilleur fils grâce à Emmanuel, parce qu'on s'est confronté, relation, parents, frères, sœurs, c'est fort. Les saisons de vie, ça fait 13 ans qu'on est entre guillemets partenaire de redevabilité. On envoie des saisons de vie en 13 ans. As-tu en ce moment quelqu'un avec qui il peut se réjouir avec toi et pleurer avec toi? Si tu ne l'as pas, je crois réellement que Dieu veut te donner aujourd'hui les clés pour que tu puisses aller vers quelqu'un, prier, vraiment comme une connexion spirituelle. Seigneur, montre-moi. C'est peut-être, je suis peut-être au QG avec quelqu'un en ce moment, tous les dimanches, je ne la connais pas, on se dit salut, mais j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment connecter ensemble. J'ai l'impression que je me sens à l'aise avec cette personne-là. Est-ce qu'en ce moment, tu as besoin d'avoir des amis? Parce que si Jésus avait eu, lui, ses amis dans les moments difficiles, tu as besoin encore plus d'amis. Je termine alors qu'on va prendre la communion dans quelques instants. Vous pouvez prendre la petite cup avec le pain et le vin, la coupe qui est là. Et alors que c'est fort parce que Jésus, à quelques heures d'être livré pour passer à la croix, Jésus va prendre la communion, justement, le repas du Seigneur avant de monter à la croix, avant de passer ses dernières heures. Il va prendre ses amis, les 12, en fait les 11, Judas n'était pas là. Il va les prendre et il va dire, voici maintenant le dernier moment de qualité qu'il a passé avant d'être sur la croix, d'être mis à mort pour sauver l'humanité, toi et moi. Son dernier moment de qualité, il l'a pris avec ses amis. Et alors qu'ils étaient là, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont chanté des psaumes. Il y avait un temps de louange. Ça devait être fort, hein? Entendre chanter Jésus, alors qu'ils savaient que lui allait arriver. Il expliquait ce qui se passait aux disciples, mais les disciples, il y en avait, je pense, la grande majorité qui n'avaient juste pas compris ce qui allait s'en venir. Jésus devait être seul dans sa mission spirituelle. C'était le seul qui pouvait sauver l'humanité. Personne n'aurait même pu comprendre. Même nous qui essayons de comprendre aujourd'hui, on ne peut juste même pas imaginer ce qu'il vivait. Et alors que Jésus est là, il chante avec ses amis, il communie, il rompt le pain, il explique, voici ceci est mon corps, voici ceci est mon sang, rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous le ferez, jusqu'à ce qu'un jour on le fasse ensemble. Il quitte ce moment de la communion et puis il s'en va au jardin de Gethsémané. Et là, les 11 sont là, mais il n'en prend que 3. Jésus avait des cercles d'amitié en disant, ben, il y a des personnes avec qui on va marcher, que je vais former, et il y en a avec qui je vais être vrai. Je vais me confier en eux. Parce que c'est fort. Jésus était 100% Dieu, mais il était 100% homme, et il a vécu l'humanité comme vous et moi. Et dans ces moments pires, les théologiens disent que le jardin de Gethsémané était vraiment là, le moment le plus difficile de la vie de Jésus. Parce que c'était là où il allait décider ou non d'aller à la croix. C'est fort quand on dit ça, mais en fait, Jésus a lui-même, au jardin de Gethsémané, alors qu'il était en stress total, il suait des grumeaux de sang. Ça veut dire que c'est un niveau tellement d'angoisse que ses vaisseaux sanguins explosaient. Ce qui fait que sa sueur était comme ça, ça devait être incroyable. Et pendant cette nuit-là, il demande à ses 3 amis de prier pour lui, de prier avec lui. Et il va aller les réveiller 2 fois. Il va aller vers eux. Hey, « Pouvez-vous veiller avec moi ?» Pouvez-vous veiller une fois? Il revient, il repart, il les voit vraiment s'endormir, comme quand ils étaient vraiment charnels, ça me rassure quand même. Ils reviennent et ils réveillent. Hey, pouvez-vous encore combattre? Il y a comme un côté du combat spirituel qui est là. L'humanité entière. Mais c'est à ce moment-là, Jésus parle à son père et dit, si c'est possible que j'y aille pas, mais que ta volonté soit faite. Si Jésus a eu cette pensée de quitter là où devait aller, il comprend exactement celle que tu as. Et Jésus pourvoit son corps, l'Église, pour que dans ces moments où tu te veux quitter, quelqu'un te rappelle la volonté de Dieu. Quelqu'un te dit, quitte pas ton mariage. Combat le bon combat. Arrête de vouloir tout, essayer de manipuler, voler les choses. Non, regarde la parole de Dieu, la sagesse de Dieu au travers de son corps. Imparfait, hein? Mais justifié devant Jésus. Jésus était là, et alors que ses amis avec qui il était là, il prie, ensuite il se lève et il dit, allons-y, je dois accomplir ma mission. Si Jésus a pris ses amis pour prier avec lui dans le pire moment de sa vie, je crois réellement que tu ne peux pas avancer une semaine de plus sans du monde autour de toi qui peut t'encourager à garder le focus sur Christ. Est-ce qu'on peut fermer les yeux alors qu'on va prier?